BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme, dans cette émission, écoutez les remontées de terrain, c'est ce que fait Manu Tan, le spécialiste du e-commerce B2B avec ses salariés en entrepôt qui ont exprimé des besoins spécifiques à travers une enquête lancée par la direction. La DRH vient nous raconter ça. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous, Jeanne.
Bonjour Erwan, aujourd'hui c'est l'avocate Valérie Meymounayat qui va répondre à une question sur le burn-out. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur Happy Boulot. @bfmbusiness.fr.
La Gen Z, les moins de 30 ans, 25 ans, sont-ils trop sur deux au travail? C'est la question qu'on va poser à nos invités dans notre focus. Et puis, c'est une nouveauté. Chaque premier week-end du mois dans Happy Boulot, Jeanne, c'est votre labo RH. Vous nous présentez une bonne idée. On va parler de quoi aujourd'hui?
La bonne idée, c'est d'amener son chien au travail.
Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, ça? Ouais. C'est la meilleure idée que vous aviez?
Oui.
Va falloir nous convaincre. Allez, merci d'être avec nous. C'est parti. On vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Bon, c'est généralement apprécié par les équipes au travail, hein, quand la direction demande des remontées de terrain. La difficulté après, c'est de les mettre en pratique. Bonjour Valérie Benoît.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la DRH de Manu Tan, spécialiste du commerce B2B. Vous avez lancé une enquête auprès de 450 collaborateurs de vos 10 entrepôts pour qu'ils fassent des remontées de terrain, justement. Qu'est-ce qui en est ressorti?
Alors, il y a eu des groupes de parole, en effet. Donc, chacun des 10 entrepôts a organisé un petit comité qu'on appelle le comité With Love. Je me permets l'anglicisme, vu que l'émission s'appelle Happy Boulot.
On a le droit ici.
Pour justement augmenter le With Love employé, With Love collaborateur par rapport à l'entreprise. Et donc, ils sont réunis, ils ont réfléchi ensemble pour identifier les deux irritants ou les deux points d'insatisfaction majeurs sur lesquels ils voulaient travailler.
D'abord, est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour identifier
Alors,
ces deux points?
C'était assez amusant parce que du coup, effectivement, il y a un travail collectif et de canalisation des idées des uns et des autres. Après, c'était un groupe porte-parole de l'ensemble des collaborateurs de l'entrepôt. Donc, ils allaient aussi chercher les informations à l'extérieur avant la réunion. Et puis, c'était intéressant aussi de voir le décalage entre peut-être ce que les managers ou l'encadrement percevaient comme irritant plus important, qui n'est pas forcément celui qui a été choisi par les collaborateurs, mais on a joué le jeu. On a dit, c'est vous qui choisissez vos irritants, donc c'est vous qui les priorisez et qui nous dites les deux sur lesquels vous voulez qu'on avance.
C'était la première fois que vous vous prêtiez à cet exercice chez Manu Tan?
Alors, de façon aussi poussée et structurée, oui, puisqu'on a fait tous les 10 entrepôts en même temps, c'est 450 personnes, ce que vous disiez, c'est 20% de nos effectifs. Et justement, sur cet indicateur With Love, on a remarqué qu'on était plus de 10 points en dessous de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, ça ne nous allait pas, on voulait faire quelque chose pour améliorer ça.
Et alors, quels ont été les deux points qui ont été soulignés et sur lesquels vous avez dû ensuite agir?
Alors, il y a eu deux points assez consensuels qui ont été communs, qu'on a un peu aiguillé, mais qui a été approuvé par l'ensemble des entrepôts. On a choisi deux points communs qui sont l'apprentissage et la sécurité. Je devrais dire plutôt la sécurité et l'apprentissage, puisque en entrepôt, le B.A.B.A. et puis dans toutes les entreprises, c'est d'assurer la sécurité de ses collaborateurs.
C'est-à-dire quoi, ça part de... On constate qu'il y a des failles, c'est quoi le...
C'est imprimer les indicateurs, avoir des zones bien balisées, être formé, enfin tout ce qui va avoir lié à la sécurité quand je suis dans mon entrepôt. Et ensuite, l'apprentissage, donc qui est plus autour de la formation, donc qui peut être et qui est forcément déjà lié à la sécurité, plus tous les autres sujets d'apprentissage. Aux Pays-Bas, ils les ont formés sur le digital, par exemple, pour être à l'aise sur Internet, pour utiliser les smartphones, etc., pour vraiment intégrer le monde d'aujourd'hui. Et puis après, chaque entrepôt a choisi en plus deux points spécifiques. Donc, on est allé sur l'organisation du travail, où ils trouvaient quand il y avait des absents, ben, ceux qui étaient là, en fait, ils travaillaient plus que ce qu'ils devraient, peut-être.
Ouais, donc une meilleure répartition.
Voilà, une meilleure répartition des charges, organisation des plans de travail. Il y a eu sur les compétences managériales qui sont remontées en disant on trouve que nos managers ils nous parlent pas suffisamment bien et qu'on veut plus de feedback positif ou feedback d'amélioration mais formulé de façon
plus... Et là-dessus, ensuite, vous, côté RH, vous parvenez à agir, à avoir des rendez-vous avec les managers pour leur dire voilà ce qu'on est ressorti.
Ah oui,
voilà,
ça a été complètement transparant. Ouais. Donc chacun a remonté ses points, ça a été partagé devant toute la communauté. Donc depuis, il y a une communauté des managers de l'entrepôt, on partage tous ces points-là et on partage les plans d'action mis en place.
Vous avez changé des managers?
On n'a pas changé les managers, on les a accompagnés. Donc là, on fait un programme spécial pour les team leaders, qui sont vraiment le manager de proximité, le chef d'équipe, pour justement le faire travailler sur le feedback, la communication, les débriefs de fin de journée, etc.
Donc un exercice qui a plutôt été apprécié, j'ai l'impression.
Ah oui, alors ça a été apprécié à plusieurs titres. Un, parce qu'on a vraiment écouté ce que vous avez soulevé dès le départ, et c'est eux qui étaient moteurs dans le sujet, qui ont choisi les actions. Puis on leur a dit, réfléchissez à des actions qui sont, vous êtes maîtres, s'il faut demander à la direction générale, l'informatique, ou voilà. Donc du coup, ils se sentaient vraiment porteurs du sujet, et ça a été apprécié parce que après les collaborations ont été faites et les actions sont mises en place.
Ouais. Pardon, ça pousse à agir sur les conditions de travail. Vous parliez du volet sécurité. On se dit quoi ? C'est qu'il y a, les salariés constatent qu'il y a peut-être des failles qu'il faut combler, et c'est aussi le rôle de RH d'identifier ces failles et puis d'agir dessus.
Oui, tout à fait. Donc, suivant les entrefautes, c'était pas forcément les mêmes choses. C'est pas forcément des choses dangereuses, entre guillemets.
Grave,
la sécurité,
enfin, ouais,
c'est assez large, mais voilà, des choses qui sont améliorées, qui voient, qui peuvent être améliorées pour la sécurité et pour la vie globalement en entrepôt, en fait, la vie d'un collaborateur en entrepôt.
C'est un enjeu, tout ça, pour l'attractivité. On sait que dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, ben, on a du mal à recruter parce qu'il y a une pénurie de talents. C'est peut-être le cas chez vous. Est-ce que le fait de pouvoir montrer lors d'un entretien d'embauche que vous avez ces pratiques-là, c'est de matière à convaincre les candidats que ça peut être une bonne entreprise pour eux ?
Ah oui, c'est un levier. Alors, c'est un levier de rétention. Déjà, avant de recruter, oui, c'est bien de garder ceux qu'on a.
Oui, parce qu'il y a le turnover aussi, voilà,
c'est
un autre problème.
Mais c'est un vrai levier d'attractivité. En plus, on a notre WizLove est adossé à l'enquête Great Place to Work. Et notamment, donc, on a fait un focus sur les résultats pour les collaborateurs de l'entrepôt. Et on a gagné 7 points depuis l'année dernière. Donc, ils sont 7% plus satisfaits que l'année dernière.
Donc, depuis cet exercice auquel
depuis
vous êtes
Depuis le début de ce projet, ouais.
Ouais. Bah,
donc ça va continuer. L'idée, c'est d'être dans une itération et dans une démarche d'amélioration continue. Et que...
Valérie Benoît, pour mieux vous connaître, il nous reste une minute et Marianne nous amène tout de suite la fameuse boîte du DRH d'Happy Boulot, dans laquelle je vous invite à piocher un premier papier, une phrase à compléter de manière spontanée. Hein.
Dans ma boîte, on me reproche de...
Ah, ça, c'est pas facile.
Ah si, c'est facile parce que...
Ah, oui.
D'être trop gentille.
D'accord.
Après, je pense que c'est aussi lié à la position de RH. On est toujours en accompagnement des collaborateurs, des managers. Moi, je suis beaucoup plus en contact avec les managers, mais d'accompagner les gens. Mais après, il faut aussi savoir dire non, il faut aussi savoir recadrer, faire du feedback d'amélioration,
ouais,
etc.
Mais, et vous travaillez dessus alors ?
Et je travaille dessus avec ma boss, avec mes N-1, avec mes pairs.
Merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup, Valérie Benoît, DRH
de
Manutan.
Merci de m'avoir accueilli.
Avec plaisir, merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre experte, les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite l'avocate Valérie Mémounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Pour répondre à cette question, Valérie, j'ai une très grosse charge de travail et je ne m'en sors plus. Je refuse de m'arrêter ce que mon entourage me presse de faire car l'entreprise a besoin de moi et j'apprécie mon équipe et mes boss. Que puis-je faire ?
Alors, avoir une grosse charge de travail, il faut peut-être d'abord savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'entreprise est en sous-effectif, que vous n'êtes pas aidé, que vous avez fait des demandes pour compléter votre équipe et qu'on n'y a pas répondu ? Ou est-ce que c'est parce que le secteur dans lequel vous exercez a une pression et un rythme particulièrement élevé ? Dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas ne rien faire, car si vous êtes en surcharge et que votre entourage commence à vous dire de faire attention, c'est que peut-être vous êtes en pré-burnout ou en burnout avéré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus vous-même à identifier le degré entre le travail normal et le surmenage. Et il se trouve que ce type de situation est d'autant plus intense que vous aimez ce que vous faites. Donc, galvanise, et quand on est galvanisé, eh bien, on va plus loin. Et dans ce cas, c'est une pression un peu choisie. Et y mettre des limites est ce qu'il y a de plus difficile. Donc la première chose à faire, c'est dire stop, c'est demander ou de l'aide ou du repos. Si ce stop n'est pas entendu, alors il faut formaliser une demande d'aide de manière plus juridique et peut-être sous forme d'alerte, de manière à ce que ce soit traité par l'entreprise au niveau des ressources humaines.
Merci Valérie Memounayat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Vous êtes jeune, vous êtes salarié d'une entreprise. Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop à l'aise et décomplexé? C'est parfois ce qu'on reproche à la jeune génération au travail. La Gen Z est-elle trop sûre d'elle? C'est l'objet de notre focus avec nos deux invités, Mathias Jean, que j'accueille. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Tarento, agence de communication marketing RH spécialiste des jeunes, ça tombe bien. Et avec nous, Pierre Monclos, bienvenue. DRH de YouKnow, auteur de Quand les startups scale up et licorne réinventent les RH chez YouKnow. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La jeune génération, alors je ne sais pas exactement d'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite d'âge, je dirais les moins de 30 ans, peut-être même autour de 25 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le type de salariés-là, ces jeunes travailleurs, ils ont du mal avec le monde du travail? Et vice-versa, est-ce que le monde du travail a du mal à les comprendre? Question vaste hein, pour commencer, mais on affinera. Qui veut commencer? Pierre, Mathias?
Eh ben, je veux bien,
allez,
je veux
Pierre.
Bien commencer. Moi, je dirais que c'est surtout...
Vous êtes DRH, hein.
Et ça fait 10 ans que je bosse dans les RH et j'ai l'impression que c'est plus les anciennes générations qui ont du mal à comprendre les nouvelles que les nouvelles qui, en fait, affirment haut et fort ce qu'elles veulent et trouvent ça normal. Et ça, c'est admirable, on y reviendra.
Ouais.
Souvent, elles affirment des choses que les autres générations pensent, mais osent moins affirmer parce qu'elles ont moins été habituées à ça ou elles n'ont pas le choix.
Et comment ça se fait? C'est que la génération Z, elle marque un vrai tournant dans la façon de penser, dans la mentalité par rapport à ce qu'on a eu sur les décennies précédentes?
Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais citer deux exemples. Déjà, elles ont été élevées par des personnes qui ont eu des regrets d'avoir sacrifié leur vie professionnelle, en passant trop de temps au travail et qui se disent tout ça pour ça. Donc ça envoie quelques messages. Et puis surtout, c'est médiatisé. Qu'est-ce qui est médiatisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux où passe 3 heures par jour la Gen Z? Bah, les entrepreneurs qui réussissent à monter une boîte. Alors c'est une moyenne.
Ouais, c'est une moyenne.
Mais c'est des entrepreneurs qui ont fait ça en sortie d'école. Donc à 23 ans, on peut monter une boîte, on peut monter Facebook, Mark Zuckerberg. Il y a des solopreneurs qui gagnent 10 000, 100 000 euros soi-disant par mois, mais qui l'affiche. Donc ça donne des codes de... Il ne faut pas d'expérience forcément pour réussir, on pourrait faire autrement.
Ouais. Mathias. Ça fait écho justement, moi je pense que justement la génération Z, peut-être qu'elle est plus sûre de rien du tout.
Ah ouais.
Si on prend la crise de 2008, justement les subprimes, ce que tu disais, on voit nos grands-parents qui perdent tout ce qu'ils avaient construit depuis des années. Crise écologique, crise du Covid, crise géopolitique aujourd'hui. La question qu'on se pose, c'est...
Donc on n'a plus de repères, c'est ça?
Ben, on n'a plus de repères et surtout, en fait, est-ce que c'est difficile dans ce cadre-là de ne pas réussir à se projeter dans l'avenir? C'est-à-dire, on va bosser pendant je ne sais pas combien de temps pour monter les échelons et faire une carrière. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais même pas moi ce que je vais faire demain, dans quel bar je vais sortir. Et donc, je pense qu'il y a un nouveau rapport au temps qui s'explique aussi avec cette génération Z-là et qui, au final, en fait, se diffuse. Il y a une valeur travail qui est en train de se transformer. La génération Z, on dit souvent qu'elle le porte. C'est un porte-drapeau de cette nouvelle valeur travail. Moi, je pense qu'en fait, ça se répand dans toutes les générations. La crise du Covid, on l'a montré, a fait ce déblocage de beaucoup de personnes qui étaient dans des situations, dans des entreprises et qui se sont dit du jour au lendemain, je vais changer de cursus, je vais changer de vie.
Mais est-ce que c'est un accélérateur, ça, pour justement faire son trou dans une entreprise ou monter son business? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un frein parce qu'on ne parle pas la même langue que le patron, que le manager?
Ça va dépendre de la culture de l'entreprise. Si on est dans une culture qui valorise la quantité du travail plutôt que la qualité de ce qu'on fait, non, globalement, ce ne sera pas une bonne manière de progresser dans l'entreprise.
Et vous, chez YouKnow, comment vous faites?
Alors nous, chez YouKnow, on fait partie des catégories d'entreprises où on a une moyenne d'âge, à date, elle doit être de 31 ans ou 32 ans, et on est dans la tech. Donc globalement, ça correspond au code des gens qui travaillent chez nous. Mais
tout le monde parle la même langue, ouais, c'est ça.
Mais même des profils plus seniors, ils se reconnaissent dans ces codes et dans ces valeurs-là. Ce qui montre qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de génération, ce que certains aimeraient nous faire croire. Mais
il y a des entreprises plus traditionnelles, on va dire, ou des grands groupes à qui on reproche de ne pas être suffisamment agile, s'adapter, qui, malgré tout, mettent en place des choses. On voit le télétravail depuis le Covid, on voit la semaine de 4 jours, qui n'est pas encore généralisée, mais quand même, on avance là-dessus. C'est comme ça aussi qu'on va réussir à dialoguer avec cette génération?
Il y a ce sujet, je reviens sur le sujet du manager, parce que ça m'a fait un écho justement entre... Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau rapport à l'autorité de cette génération?
Ah bah oui, moi, je pense et à la hiérarchie.
À la hiérarchie, moi je pense que c'est oui, mettons le sujet sur la table, il y a un nouveau rapport à l'autorité, et je vais vous l'expliquer de manière très simple. Quand j'avais 10 ans, mes parents, je leur demandais « Maman, quand est-ce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ?»« Papa, qu'est-ce que Napoléon, il a fait de bien dans sa carrière, entre guillemets ?» Réponse de mes parents, et tout de suite, tac, 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 tac.
Oui.
vous allez confirmer l'information sur Google.
Ouais.
Et c'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, en fait. Le manager, il n'est plus justement manager chef parce qu'il détient la connaissance, mais parce qu'il arrive à nous permettre de monter en compétence. On passe vraiment d'une autorité de fait à une autorité justement relationnelle. Et on parle un peu de ce manager coach, mais peut-être que la question, c'est comment aujourd'hui je fais pour devenir un manager coach.
Ça implique aussi former, reformer les managers. C'est le manager d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 10 ans, ce que vous dites.
Mais en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a jamais dit, c'est qu'en fait, on parle d'autorité de fait, mais en fait, il faut pour moi faire la différence entre le pouvoir et l'autorité. Mm-hmm. Dans une classe, vous avez deux classes, deux professeurs. Ils ont le même pouvoir sur les élèves, mais ils n'ont pas la même autorité. Et en fait, le sujet, c'est comment moi, en tant que manager aujourd'hui, j'arrive à retrouver de l'autorité auprès de ces générations Z. Moi, je suis assez convaincu que ça se fait par le relationnel et peut-être par deux choses. Il faut de la justice. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de la bienveillance. Alors, mot un peu galvaudé, je sais que vous allez
ça, on l'entend à toutes les sauces. Hein.
Mais disons de la justice et de l'empathie. Exemple très concret. Qu'est-ce qui sont des mesures de management qui sont justes et empathiques? Les objectifs qui résultent, qui sont créés, donc les OKR que vous mettez peut-être en place, donc vous fixez des objectifs tous les trimestres avec le collaborateur pour in fine pouvoir l'évaluer. On le fait avec lui, on a de l'empathie. Et en plus de ça, c'est chiffré, donc c'est juste. Autre exemple, on a souvent en fait dans les entreprises, on me dit, mais j'en ai marre, il me pose trop de questions, la génération Z. Tous les jours, il vient, il me dit, pourquoi tu fais ça comme ça, etc. Ils veulent réinventer l'entreprise. Et bien, un autre, éventuellement, moment de management, rituel de management, qui peut être juste et bienveillant. Juste et bienveillant, c'est le Ask Me Anything que j'avais dans les startups où toutes les semaines, le CEO prenait une heure de son temps. Donc c'était chez Kimono, je fais un petit coucou à Olivier Ramel, qui prenait une heure de son temps justement pour pouvoir répondre à toutes les questions et justifier en fait tous les sujets qu'il n'avait pas eu le temps de justifier tout au long de la semaine. Peut-être que ça, c'est des pistes de lecture.
Il faut libérer ce temps dans l'agenda. Pierre Monclos, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui, en fait, ce que dit Mathias en fil rouge, c'est qu'il faut être plus transparent et assumer ce qu'on maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas. En ce moment, il y a les politiques de retour au bureau encore. Si on est transparent et qu'on dit on pense qu'on atteindra mieux nos objectifs si vous revenez un petit peu plus au bureau, c'est pas la même chose que maintenant le télétravail, la fête est finie, revenez au bureau 3 jours par semaine, on vous fait plus confiance. Je pense que l'un des gros fils rouges, c'est la transparence et les boîtes qui l'ont compris. Pour moi, sont celles qui ont le plus de chances d'arriver à bosser et à engager les jeunes Z qui demandent que ça. Parce qu'en plus, des fois, on entend les jeunes ne veulent plus travailler. Je l'entends presque tous les mois, alors que je le dis publiquement comme ça. En fait, c'est pas qu'ils veulent plus travailler, c'est qu'ils veulent travailler autrement et dans un deal où ils s'y retrouvent, pas juste je travaille puis on verra bien ce que ça va m'apporter plus tard.
Et on a l'impression souvent que les jeunes travailleurs aujourd'hui, qui ont autour de 25 ans, ils veulent avoir tout de suite et ils ne se projettent plus à 10 ans dans une entreprise. Ça, c'est vrai aussi?
C'est vrai, c'est pas simple à gérer. En fait, ils ont un rapport à l'instantanéité qu'ils ont eu depuis quasiment qu'ils sont nés. Donc, c'est pas facile de faire comprendre que dans l'entreprise, c'est rare une entreprise qui est capable de redonner ce rapport-là. Mais on peut quand même s'en rapprocher. Il y a des marges de manœuvre assez fortes encore. Donc, il y a suffisamment de boulot à faire pour être un peu plus instantané. Mais dire, il y a un petit temps long. Et nous, c'est celui qu'on propose. Et moi, en tant que DRH, publiquement, j'assume. Je dis, on peut pas tout faire en temps réel. Si c'est absolument ce que tu veux, c'est peut-être pas le bon moment de nous rejoindre parce qu'on pourra pas te le donner.
Mathias, là encore, il faut trouver l'équilibre. Il faut assumer que les jeunes, ils ne se projettent plus forcément dans un plan de carrière comme on pouvait le faire il y a encore quelques années. Mais en même temps, il faut faire comprendre qu'une entreprise, c'est aussi une vision à long terme et qu'on travaille sur des temps plus longs.
Alors clairement, et je comprends que ce soit justement un peu cette question de génération Z qui vient avec des droits acquis, le télétravail, on en parlait, droits acquis. On ne demande plus aujourd'hui dans un entretien d'embauche quand on sort d'une école, est-ce que vous avez du télétravail? C'est combien de jours de télétravail vous avez?
Oui, parce qu'en fait pour cette génération, ils sont entrés avec le télétravail sur le marché.
Mais je pense qu'il y a aussi, on le dit peu souvent et on parle beaucoup de la génération Z sans dire qu'il y a un marché du travail aujourd'hui qui est en tension. Et donc aujourd'hui, forcément, quand on sort d'une grande école d'ingénieur, de commerce, d'une université, de certaines formations, on a un accès facile à l'emploi et que donc du coup, on va se retrouver dans une position de force. Donc ça, c'est les éléments. Après, si on revient à la question du temps, on le disait très bien, les smartphones depuis tout petit ont transformé notre rapport au temps, on a besoin d'instantanéité. Et ça, on le retrouve aussi dans le sujet de l'entreprise et du management, c'est comment on fait, par exemple, pour aider la génération Z à devenir autonome. On parle souvent du mode agile. En fait, c'est le micro-scellement des tâches. C'est ce qui s'est fait dans la pédagogie il y a 10 ans et qu'on est en train de retrouver dans le marché du travail aujourd'hui. C'est qu'on a un projet qui est hyper long. La génération Z aujourd'hui, c'est en fait, biologiquement, n'a plus les capacités pour mener des projets longs. Donc le manager, son vrai rôle aujourd'hui, c'est de l'aider à inhiber.
Et pourquoi ? À cause des écrans ?
À cause des écrans qui ont réduit
l'attention, en fait, moins d'attention.
Et on est des infos baisse, c'est-à-dire que dès qu'on a une information qui vient à droite, la notification, etc., on saute dessus. Ouais. On n'arrive plus en fait à inhiber. C'est pour ça que moi je dis souvent, les managers, vous devez aider la génération Z à inhiber. C'est-à-dire, eh ben, si l'information elle n'est pas importante, bah, t'enverras le message Slack plus tard. C'est pas grave. Ouais, ouais. Arrête de l'envoyer là maintenant tout de suite, parce que cette génération, elle a été picousée aux notifications, ouais. Et que si tu lui envoies un message Slack ou un SMS ou quoi que ce soit, elle va le regarder tout de suite.
Bien sûr.
Parce qu'elle a l'habitude de faire ça. Donc ça, c'était le premier sujet. Mmh. Et le deuxième sujet, c'était micro-cellement des tâches, c'est comment tu accompagnes cette génération à devenir de plus en plus autonome. Et ça, pour du coup, mes deux parents sont profs, vous en doutez, depuis quelques années dans le monde de l'éducation, c'est...
On rame à fond. Mmh. Ah oui, parce que ça change énormément. Il y a un autre point aussi qui me semblait intéressant, c'est que les jeunes ne veulent plus faire ce pour quoi ils ne sont pas payés. Alors on va leur demander, tiens, au fait, avant de partir, tu pourras me faire ça ? Mmh. Ben en fait, non, c'est pas mon travail et il est 18h et je m'en vais. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a peut-être 35 ans ou 40 ans. Le réflexe, il vient plus vite, non, chez quelqu'un qui a 25 ans. Est-ce que ça aussi, vous le constatez ?
Alors oui, et je trouve que c'est bien parce que ça assainit les choses. On a eu des cultures où le travail il a trop débordé sur la vie personnelle, et on a une nouvelle culture qui vient nous aider plutôt que d'essayer de faire du droit de la déconnexion, des journées sans email. En fait, il y a presque un tiers des talents qui ont déjà ce rapport plutôt naturel et sain à un bon équilibre. Donc c'est bien pour les entreprises. Pareil, c'est pas facile à gérer en tant que RH, en tant que manager, mais faut s'appuyer dessus.
Tant de travail, tant perso, hein, on terminera là-dessus, mais l'équilibre est pas le même encore une fois aujourd'hui.
Encore une fois, moi je pense que sur les attentes et les aspirations, on se retrouve tous. Et je pense qu'en fait, on est aussi à des stades d'avancement dans nos carrières qui sont différents. Un jeune qui arrive sur le marché du travail en stage, en alternance, en jeune diplômé, il ne sait pas ce que c'est le marché du travail. Donc je pense qu'il ne faut pas
prendre la photo à date. Mais il croit qu'il sait,
parfois. Mais parfois, je sais que c'est frustrant.
Il croit qu'il sait.
Parfois, il sait qu'il sait. Surtout, en fait, et là, j'aime bien faire ce petit parallèle, ce petit clin d'œil. Quand on a des étudiants d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, qui pendant toutes leurs études, on leur dit voilà le salaire que tu vas avoir à la fin d'année, on leur fait des classements. Après, il ne faut pas s'étonner dans le monde de l'entreprise, quand on est RH ou recruteur, que, en fait, il y a des attentes salariales qui sont hyper fortes. C'est de la faute des écoles, peut-être, et de ces classements-là qui, justement, poussent les générations, mais aussi les générations futures, bon. À avoir des attentes qui sont très brutes.
À chacun de mettre de l'eau dans son vin pour récupérer une expression de vieux, finalement. Et pour conclure, merci beaucoup, Mathias merci Jean, beaucoup. Fondateur de Tarento, agence de communication marketing RH, spécialiste des jeunes, et Pierre Monclos, DRH de YouNo, auteur de « Quand les startups scale up et licorne réinventent les RH ». Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et on part chez soi, il retrouvait Yannick Merciris qui vous aide à savoir si, encore une fois, vous êtes à la bonne place au travail, Yannick.
Est-ce que vous faites le bon job ? Eh ben, moi, j'ai la réponse. Enfin, j'ai les moyens de trouver la réponse. Regardez bien ce dessin. Ça, c'est l'ikigai. C'est un concept japonais qui veut littéralement dire la vie qui vaut la peine d'être vécue. En gros, est-ce que vous mettez le réveil le matin pour la bonne raison ? Il y a quoi dedans ? Bah, tout simplement, les quatre piliers essentiels pour être heureux. Le premier, ce pourquoi vous êtes payé, votre job. Le deuxième, ce pourquoi vous êtes doué, normalement, votre job. Le troisième, c'est ce que vous aimez, si possible, votre job. Et enfin, quatre, ce dont le monde a besoin, j'espère, votre job. Bon, maintenant, on va faire un petit exercice. On va essayer de répondre à ces quatre catégories en 5 minutes seulement pour savoir si on arrive à aligner quatre valeurs importantes. La vocation, la mission, la passion et la profession. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a 4 actifs sur 10 qui seraient prêts à démissionner dans les 2 ans pour un métier qui a plus de sens. Comme promis, c'est le moment de remettre le dessin. Je vous laisse screener. On est merci qui ?
Ben merci Yannick. Chez The Daily Soil et pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous pouvez retrouver ce petit dessin dans le replay d'Happy Boulot.
Happy Boulot, le labo RH.
Et chaque premier week-end du mois, désormais dans le Labo RH, c'est vous qu'on retrouve, Jeanne Spicarolen, pour nous parler de ce que vous considérez être la bonne idée RH du mois, finalement. Et pour cette première, j'ai un peu peur de ce que vous allez nous présenter, parce que vous allez nous parler de chien, c'est ça ?
Oui, d'emmener son chien au bureau, au travail. Si. Alors, en France, c'est vrai que c'est extrêmement rare.
Il va falloir nous convaincre, là. Hein.
Il y a à peu près 7% aujourd'hui en entreprise française qui accepte les chiens au travail, donc c'est quasiment inexistant. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est super répandu. Il y a à peu près 20% une entreprise sur cinq qui accepte de prendre son chien, qui accepte ses salariés, ouais. Que ses salariés prennent son chien, son chien au travail, voilà. Et en fait, c'est super pour le bien-être des salariés. Il y a pas mal d'études qui ont démontré que ça permettait de réduire le stress, ça permettait de
Stress des salariés ou des collègues, parce que les collègues ils vont pas forcément aimer le chien du voisin.
On va y revenir, mais en tout cas ça aide, les chiens aident à du coup réduire le taux de stress, mm-hmm. du coup des personnes, ça apaise les tensions et ça permet aussi aux salariés de discuter entre eux et d'avoir un meilleur rapport, on va dire.
Ah, ça c'est donc chiffre à l'appui, hein. Il y a des enquêtes qui ont été faites du côté des États-Unis, c'est ça?
Exactement.
Donc on peut se dire que si on transpose ça en France, ça sera la même chose.
Alors, il n'y a pas encore énormément d'études, hein, qui ont été faites en France, mais par exemple, si on prend une étude d'université anglaise de Lincoln en 2019, les employés qui amènent plus souvent leur chien au travail sont 22% plus satisfaits de leurs conditions de travail, mm-hmm. et sont plus concentrés également, pour 33% d'entre eux. Mais il y a plus intéressant, en fait, apparemment, avoir un chien au travail, ça boosterait le retour des salariés en entreprise, parce qu'on sait, mm-hmm. que depuis le Covid, il y a énormément de télétravail, et les RH luttent un peu contre ça.
Et c'est paradoxal parce que chez soi, on s'occupe mieux de son chien qu'au travail, non ?
Exactement, mais le fait de pouvoir emmener son chien au travail, ça fait que ça donne envie de rester au travail puisqu'on n'a plus vraiment de raison d'être, d'accord. chez soi. Donc, d'après une étude américaine, il y a 87% des employeurs qui 87% des employeurs qui acceptent les chiens ont remarqué que plus d'employeurs revenaient au boulot.
Ah oui,
plus d'employés revenaient au
salariés.
Boulot.
Ouais.
Exactement.
Donc ça peut être un argument du côté
exactement.
Des patrons.
Alors, et il y a encore plus amusant.
Et on terminera là-dessus.
C'est qu'il y a aussi pas mal de millennials qui seraient prêts à être moins bien payés si on acceptait les chiens.
Ouh, mais ça va plaire à certains patrons qui nous écoutent, je pense. Bah, en tout cas, dites-nous sur aussi happyboulot@bfmbusiness.fr ce que vous en pensez. Et si vous avez vous aussi des bonnes idées RH à nous proposer et que Jeanne pourra essayer de défendre dans les prochaines émissions. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.